Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver dans cette émission. Vous savez bien que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué vendredi une visite de travail sur le sol togolais. Ce déplacement premier du genre du leader sénégalais s'est effectué à l'invitation du président du Conseil Fort et Niassingbé. Au cours alors de leur premier tête-à-tête, les deux dirigeants ont fait le tour de plusieurs sujets clés, notamment la paix, la sécurité, l'économie, la jeunesse, l'intégration régionale ou encore la culture. Pour le Togo et le Sénégal, liés depuis des décennies par des relations étroites et cordiales, l'objectif est de renforcer la coopération et de bâtir un avenir commun au service de la paix et du développement autonome du continent. Que se cache derrière cette visite alors du président sénégalais au Togo, ou que cache concrètement alors cette visite? Nous allons en parler dans cette émission Club de la Presse et nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 28 juillet 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous savez que vous avez aussi rendez-vous avec cette émission partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet www.canalfm.com et également sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. L'équipe de lundi se met déjà en place. Gosson Keton Mania, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je pète la forme.
C'est l'essentiel.
Oui, je saisis l'occasion pour adresser mes salutations les plus fraternelles aux auditeurs et auditrices de Canal FM, à mes proches, et surtout aux fidèles lecteurs du journal Liberté.
Et ça fait plaisir de vous avoir et je sais que vous êtes toujours fidèle à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'autre qui est toujours fidèle aussi à cette émission.
Pascal, je permets-moi.
Oui.
Habituellement, tu as l'habitude de dire que l'actualité couvre le plan national et international.
Tout à fait.
Depuis hier, j'ai changé de ma photo de profil pour y mettre dessus un enfant palestinien dont les membres supérieurs ont été coupés au niveau de l'avant-bras et un des membres inférieurs aussi a été coupé. C'est pour dire quoi? Pour faire passer un message. Je ne suis pas arabe, encore moins palestinien. Mais quand nous apprenons tout ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport à la politique, à la problématique de la terre, je me sens interpellé. Surtout quand je me rappelle que l'Afrique, toute l'Afrique, a failli se mettre autour d'une table avec une entité, Israël, pour parler de je ne sais quoi. Et aujourd'hui, c'est cet État-là ou cette entité-là qui cause de la douleur, des peines à un peuple qui ne cherche qu'à officialiser sa terre. Cet état, notre pays a l'habitude de prendre fait et cause pour lui. Je me rappelle, le 7 octobre, notre ministre des Affaires étrangères avouait que Israël avait le droit de se défendre. Soit. Mais depuis les massacres qui se perpètrent, la faim qui a élu domicile dans Gaza, et tout récemment, la guerre que cette entité a déclenchée à Iran, et dont elle est sortie assez fouettée, je me dis, jusqu'à quand nos autorités, à travers le ministre des Affaires étrangères, patienteront avant de se prononcer sur le sujet? Ce n'est pas parce que nous avons une proximité avec cette entité que quand celle-là commet des bêtises, des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, on doit garder un silence vraiment coupable. Personnellement, je me sens interpellé parce que de par le monde, il y a des peuples qui se prononcent, qui fustigent cet état de fait et qui mettent une réelle pression sur les dirigeants du monde afin qu'une solution soit trouvée. Il faudrait bien que nos autorités aussi se prononcent un jour.
Que vous attendez, nos autorités, hein, pour se prononcer alors sur cette question du conflit dans le Moyen-Orient? Merci. Vous m'avez quand même dit que vous allez porter Anthos à la procédure normale et vous l'avez fait. Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais m'excuser pour lundi passé, pour une cause par rapport à la région des savanes. Et je voulais, Pascal, si tu le permets, saluer le gouverneur de la région des savanes. Je voudrais nommer Acha Deji Afo, qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour un séminaire avec les collègues, avec les confrères de la région des savanes. Sur la cohésion sociale, enjeux et défis de l'heure. Parce que quand vous, pour ceux qui connaissent la région, savent les problèmes que cette région traverse. Je voudrais lui dire un grand merci ce matin pour l'honneur, dire également merci au PNUD et à l'EIM qui ont accompagné effectivement ce séminaire et dire combien de fois cette région, Pascal. Après le séminaire, j'ai eu à faire certains tours dans certains villages pour voir de visu ce qui se passe et les projets réalisés par l'État dans cette région. Je voudrais déjà dire que, parlant de l'eau de robinet, il faut reconnaître que les villages qui n'avaient pas cette eau de robinet pendant des années, quand j'ai fait le tour la fois passée, j'ai vu que ces villages ont quand même de l'eau de robinet, de l'eau potable, mais le problème, c'est les voies d'accès à ces villages qui créent beaucoup de problèmes. Donc il faudrait que l'État continue toujours par accentuer la construction d'outils secondaires, essaie de désenclaver également certains quartiers pour permettre effectivement aux populations de pouvoir effectivement vaquer librement à leurs occupations. Et l'autre aspect de la chose, c'est l'écoulement des produits que les paysans ont stocké dans les magasins, qui crée également problème. Mais une explication a été donnée par le gouverneur et également le secrétaire général du gouvernorat de la région des savanes. Vous savez que la région des savanes traverse actuellement une crise sécuritaire et souvent ces aliments se retrouvent entre les mains de ceux que vous connaissez, je ne voudrais pas les nommer. Donc l'ANSAT est en train quand même de faire un effort pour pouvoir acheter ces produits-là auprès des paysans. Et l'autre problème également, c'est le carburant. C'est le carburant. Vous n'avez plus droit à acheter du carburant dans un bidon dans cette localité. Mais les renseignements qui ont été donnés par le préfet, surtout de Saint-Cancé, qui étaient concernés par cette mesure, parce que les populations se plaignaient. J'ai fait également un tour là-bas. Mais les renseignements reçus, c'est que le préfet s'est organisé, a demandé également à ces populations de s'organiser lorsqu'ils ont par exemple besoin du carburant, parce que d'autres se plaignent que leur groupe électrogène ne tourne pas pour pouvoir avoir, parce que vous savez que la plupart c'est les forages, donc il faut faire tourner les groupes électrogènes pour pouvoir pomper de l'eau. Donc le préfet avait demandé à toutes ces populations qui ont par exemple ces groupes électrogènes, qui veulent du carburant, qui s'organisent, et l'armée de leur point de départ pourront aller fournir de carburant à ses compatriotes-là qui en veulent. Mais Pascal, vous connaissez, l'homme est ce qu'il est. Bon, dès qu'on a donné cette instruction, les gens n'ont pas respecté. Donc, ce sont ces petits problèmes que nous avons. Mais pour m'arrêter, je voudrais une fois encore demander l'État, Pascal, sur la nationale numéro 1. C'est vrai que, par endroit, la voie a été quand même réparée, mais je voudrais inviter le nouveau gouvernement, surtout
le nouveau gouvernement qui n'est pas encore mis en place.
Le nouveau gouvernement qui sera mis en place. D'accord, surtout okay. Interpeller le ministre des Travaux publics. Pascal, on ne peut plus parler de cette nationale numéro 1 en matière de colmatage. Il faut vraiment qu'on essaie de bâtir. Une route digne de ce nom. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, vous roulez et avec les titans, et avec les bus, et avec les chameaux, tout. C'est-à-dire que sur une seule voie, et si vous voulez faire la vitesse, vous risquez de vous retrouver dans les ravins. Donc, je voudrais demander effectivement au gouvernement de tout faire, surtout celui qui sera nommé au ministère des Travaux publics. Ils n'ont qu'à chercher un financement pour vraiment essayer de construire cette route. Et parler également du péage le péage de Sautebois. Pascal, c'est la croix et la bannière là-bas. Vous pouvez imaginer.
Qu'est-ce qui se passe là?
Non, le niveau de ce péage, il n'y a seulement qu'une entrée et une sortie. Et vous savez que lorsque les titans viennent là-bas pour payer les péages, lorsque vous êtes par exemple avec votre voiture ou bien vous êtes dans un bus, vous faites des heures avant de pouvoir vous acquitter de ce péage de niveau. Moi, je crois qu'il faut essayer de construire également des postes, de pas élargir un peu les postes comme celui de Davier, parce que nous avons vu que le péage de Davier a quand même beaucoup de postes, mais il faudrait qu'à ce niveau également qu'on le fasse. Vous savez, le problème qui s'est posé la fois passée, c'était la fin des Evala. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de titans qu'on avait bloqués. Et dès qu'on a débloqué ces titans pour que ces titans-là viennent à Lomé, c'était la croix et la bannière. Je vous dis que j'ai fait presque 1h30 au niveau de ce péage-là.
Ah bon?
Oui, avant de pouvoir passer. Parce que les véhicules, si vous voyez effectivement la longue queue pour payer à ce niveau, c'était difficile. Donc, une fois encore, je crois que c'est le ministre des Travaux publics également à ce niveau, ou bien c'est le ministre du Transport plutôt.
Le transport.
C'est le transport. Donc, il faut essayer de voir le niveau du PA de Sautebois là, comment essayer d'élargir et mettre également d'autres postes pour pouvoir permettre effectivement à nos compatriotes, lorsqu'ils veulent payer leur péage, qu'ils le fassent et puis qu'ils s'en vont. Mais l'autre constat que j'ai fait, c'est que au niveau de Mango, le PA de Mango, j'ai constaté que les motos ne paient pas les péages au niveau de Mango. Quand les motos viennent, les motos passent, ils ne paient pas les péages. Mais l'autre constat, c'est que dès que vous quittez Mango, les autres péages, les motos payent. Donc, je ne sais pas quel est le problème, qu'est-ce qui se passe.
Vous n'avez pas posé la question?
Bon, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais je voulais observer pour voir. Allez. Parce que j'ai remarqué qu'à ce niveau, les motos ne paient pas les péages. Mais quand tu quittes, par exemple, le péage de Mango, quand tu vas vers l'autre péage, tu vois que les motos payent. Donc, je ne sais pas quel est le problème. Est-ce que l'État a dû subventionner les motos de Mango par rapport à... Je ne sais pas. Donc, je crois qu'il faudrait qu'une explication également soit faite par rapport...
Mais s'il doit y avoir subvention, on ne peut pas l'avoir seulement à Mango.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas quel est le problème. C'est pourquoi je pose la question.
Justement.
C'est ce que j'ai observé pendant... Justement.
D'accord, ça se comprend. Merci, Jacques. Mais merci de nous avoir amené surtout à d'apparence, c'est-à-dire au grand nord du pays, parce que nous allons y rester pour le premier sujet même d'ailleurs de cette émission. Et c'est notre confrère Togoscope quand même qui annonce ce grave accident qui s'est produit ce samedi dans la région, bien sûr, la région des Savanes. Et le journal annonce que ça s'est passé plus précisément à Tendik. et dans la région alors des savanes. Et le bilan fait état de 8 morts, dont des enfants et nourrissons, et plus d'une vingtaine alors de blessés. Les routes togolaises, enfin, c'est ce que le journal bien sûr écrit, que les routes togolaises redeviennent tristement, célèbres pour leur dangerosité. Et selon les premiers éléments du rapport communiqué par les services de sécurité, il s'agit d'un minibus Mercedes-Benz immatriculé au Burkina Faso, transportant passagers et marchandises. Le véhicule en provenance du marché béninois de Tangueta et en direction du Burkina Faso a dérapé dans un virage dangereux avant de finir sa course dans les ravins. Et tel que je l'ai dit, le bilan provisoire est lourd, 8 morts, dont 4 femmes, 2 enfants et 2 nourrissons, ainsi que 21 blessés graves, 14 hommes, 6 femmes et 1 enfant. Et les blessés ont été rapidement évacués vers le centre hospitalier régional de Dapaon pour une prise en charge médicale d'urgence. Alors, Jacques, si déjà nous nous tenons à cette information, ça veut dire que nos routes continuent alors de tuer ou du moins continuent alors de faire des victimes.
C'est le lieu d'inviter une fois encore les chauffeurs à la prudence. Parce que vous savez, Pascal, le constat également que j'ai fait au cours de ce voyage, dès que par exemple les patrons sortent de Lomé, ils confient le volant aux apprentis. C'est le constat que j'ai fait. La plupart des titans que j'ai croisés, et puis des fois, certains, quand ils garent pour pouvoir se soulager, vous voyez celui qui est au volant, quand vous calculez l'âge de celui qui est au volant, il n'a pas encore 16 à 17 ans. Pas du tout. Et c'est ce qui se passe généralement. Dès que les titans là quittent, sortent de Lomé, le volant est confié aux apprentis. Et vous savez souvent, aujourd'hui, Dieu merci que durant tout le trajet, il n'y a pas eu une grosse pluie. Parce que vous savez que lorsqu'il pleut, c'est là qu'il y a plus encore d'accidents. Parce que ces jeunes-là ne maîtrisent pas tellement la route et ne maîtrisent pas tellement le volant. Et ça crée beaucoup d'accidents. Et l'autre aspect, c'est l'état également des véhicules, Pascal. C'est l'état des véhicules. Et quand vous voyez un peu l'état des véhicules qui circulent un peu sur cette nationale numéro 1, vous posez des questions. Et tertio, c'est les surcharges. Les surcharges. Et quatrièmement également, c'est l'état également, de comme vous l'avez si bien dit, l'état de la route. L'accident dont vous venez de parler tout à l'heure, je connais un peu le virage là. C'est-à-dire que lorsque vous pouvez être un chauffeur professionnel, c'est-à-dire que quand vous arrivez à ce virage-là, Pascal, vous devez ralentir. Parce que si vous voulez foncer par rapport à ce virage, c'est ce qui s'est passé, vous risquez de tomber dans le ravin. Et c'est ce qui se passe également. L'autre aspect, il y en a également qui ne maîtrisent pas effectivement la route. Il y en a qui ne connaissent pas souvent la route. Vous savez, pour ceux qui viennent par exemple de Lomé, arrivez au niveau par exemple de Pia. Vous savez que avant il y avait une voie qui allait directement vers le domicile du feu et Adema, et l'autre voie aujourd'hui qui est contournée pour aller vers l'autre côté, pour aller ressortir vers l'université avant de continuer vers Dapaon. Et certains également se trompent. Quand ils arrivent à ce niveau, ils prennent encore la direction, comme s'ils vont vers l'ancien domicile de Yadema, et c'est souvent les militaires qui les ramènent pour dire « Non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. » Donc, c'est pour vous dire, certains prennent la route, ils ne les maîtrisent pas. Deux, l'état des véhicules. Trois, également, il faut reconnaître qu'il y a toujours des surcharges. Il y a des surcharges au niveau, effectivement, de la nationale numéro 1, et l'état également des véhicules, et également les enfants à qui on remet le volant, sans que les enfants là ne maîtrisent ni le volant, ni également l'état de la route, ni l'état également des véhicules. Donc je crois que c'est ces aspects-là également qu'il faut voir. Parce que quand vous voyez le véhicule qui a fait l'accident, si vous voyez le nombre de passagers qui étaient dans ce véhicule, Pascal, vous allez vous poser des questions. On va où avec tout ça là? Et Dieu merci que le gouverneur de la région de Savane a eu à effectuer un déplacement pour rendre visite également assez blessé.
C'est-à-dire le lendemain déjà, le gouverneur...
Justement. Donc c'est le lieu également de présenter la compassion, mes condoléances aux familles éplorées par rapport à cet accident. Et demander une fois encore, Pascal, la prudence. Même si vous maîtrisez le volant, vous maîtrisez également la nationale numéro 1, soyez toujours prudent, parce que comme je l'ai dit, vous allez voir également que les conducteurs des bœufs, parce que quand ils regardent à gauche, à droite, et que ils sentent que il y a un vide. En même temps, ils font passer leur troupeau. Et si vous êtes un chauffeur qui était, par exemple, à 100 ou bien à 120 à l'heure, vous risquez de foncer directement dans ces bœufs-là. Donc, une fois encore, prudence, ce n'est pas du tout facile. C'est vrai que Dieu merci. Et voilà, c'est très bien passé. Les uns et les autres ont regagné leur domicile et sont saufs. Nous remercions Dieu pour ça. Mais je voulais inviter une fois encore les usagers, les pratiquants de la nation numéro 1, d'être toujours prudents sur leur volant et d'être également effectuer les visites par rapport à leur véhicule, les freins et tout ça là, avant de prendre la route.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Oui, Gossom, c'est vrai que la prudence, justement, on appelle toujours les usagers de la route à la prudence, mais tout compte fait sur la route, toujours est-il que l'imprudence domine.
Ce qui me fait dire que la route n'a jamais tué. Je n'ai jamais vu une route aller cogner un véhicule. Non. On a toujours fait une route selon les moyens des autorités. Il revient à l'humain. On l'a déjà dit ici. L'humain que nous sommes. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos expériences sur le volant, de réaliser que notre vie et celle des passagers tiennent entre nos mains. Donc, vous avez sorti le thème prudence, prudence, prudence. Malheureusement, il se trouve que les passagers n'ont pas l'habitude d'interpeller les chauffeurs quand ils constatent que l'allure là ne les avantage pas. Les passagers n'ont pas le courage de dire au chauffeur, allez doucement. Pour l'éveiller, l'interpeller. Mais, et quand après le sinistre survient, on n'a plus de voix pour dire je t'avais averti, voilà, j'aurais dû t'avertir. Non. Quelle que soit l'expérience, au risque de m'opposer à Jacques, je ne veux pas lier ces problèmes-là à l'âge des chauffeurs. Parce que tout est question de conscience.
Il y a aussi l'expérience qui joue.
Justement, à un jeune qui n'a pas d'expérience et à qui on demande d'aller doucement, il suffit que l'enfant suive les prescriptions. Vous verrez qu'il va conduire normalement. Contrairement à un vieux qui se dit expérimenté, mais qui voudra appuyer sur l'accélérateur en comptant sur son expérience. C'est en ça que je me dis, peu importe les années au volant, c'est comme aujourd'hui, quand ça me vient en tête, que je prends soit la moto ou le véhicule, il y a des moments où je vais à une certaine allure de dire « Gosson toke keme yama ». Oui, c'est ce que j'ai reçu comme inspiration, d'aller doucement. Tu as beau être un expérimenté, quand le signe va arriver, tu te dis « Et pourtant, je sais conduire. » Et puis quoi? C'est une ferraille que tu es en train de conduire. La ferraille, ça peut ne pas répondre à tout moment. Donc, chers usagers de la route, prudence, prudence, prudence.
Oui, Jacques, c'est vrai que nous parlons des fois où nous dénonçons l'état de la route. Vous en avez fait cas tout de suite concernant cette nationale numéro 1. Mais au même moment, le constat est fait que quand on arrive à bitumer la voie, c'est en ce temps-là que cette voie constitue encore un problème. C'est-à-dire, là, on doit appeler quand même à la conscience des uns des autres.
Oui, Pascal, vous savez, il faut quand même bitumer d'abord. Il faut bitumer. C'est-à-dire que prends au moins la femme et qu'on te dira que tu ne sais pas comment l'embrasser. On peut t'aider à te donner les astuces pour embrasser ta femme.
On ne va pas l'embrasser à ta place quand même.
Oui, mais on peut t'apprendre. C'est-à-dire il faut acquérir d'abord la femme. C'est-à-dire dès que vous avez la route, il n'y a pas de souci. On pourra prendre soin également de la route. Mais lorsque vous prenez par exemple... Pascal, il faut vivre ce que nous sommes en train de vivre sur la nationale numéro 1. Vous allez comprendre notre douleur. Parce que quand on parle comme ça, celui qui n'a pas fait l'expérience ne saura pas, Pascal. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, vous côtoyez avec les titans, il y a les bus, il y a également, vous allez voir, comme je l'ai dit, les troupeaux qui traversent de gauche à droite. C'est un peu difficile, Pascal. Et puis, par endroit, comme je l'ai dit, c'est vrai et que les trous sont en train d'être commentés par endroit. Par exemple, quand vous prenez actuellement entre Aouda et vous allez vers Soutoubois, il y a une partie qu'on est en train de karma de refaire, parce qu'entre-temps, quand vous passez là-bas, Pascal, vous vous posez des questions. Est-ce que vous êtes sur une route ou vous êtes sur une piste? Donc aujourd'hui, quand l'État est en train quand même de refaire cette partie-là, ce qui est une très bonne chose. Mais comme on l'a dit, Pascal, il faudrait qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement qu'on va former très bientôt, le ministère des Travaux publics, là, se mette en charge et se dire qu'il faut aider les populations de l'intérieur du pays par rapport à cette nationale numéro 1. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau de Sokodé, vous pouvez contourner pour aller sortir vers Sadori. C'est également une très belle voie qui a été faite, mais quand vous passez déjà là-bas, Pascal, vous allez voir que la voie est encore également d'être... la voie se gâte déjà, parce que vu le poids des titans qui prennent également cette voie-là, la voie est également en train de se détériorer. Donc je crois que il faudrait que l'État puisse réfléchir, voir est-ce que il faut également construire une route karma pour ces titans-là. Les détourner des titans par rapport aux petits poids et aux véhicules-là qui passent, comment faire? Parce qu'aujourd'hui, l'État peut investir, comme vous l'avez ici bien dit, l'État peut investir des milliards sur cette route nationale numéro 1, mais vu le poids des titans, la route ne va pas également durer. Donc, il faut réfléchir, voir comment effectivement construire effectivement une autre voie, carrément, pour ces titans-là, et laisser peut-être l'autre voie également pour les véhicules un peu légers. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, quand vous prenez cette nationale numéro 1, vous revenez, vous remerciez Dieu. Parce qu'il y a tout. Il y a des titans qui tombent de gauche à droite. Vous voyez également les minibus qui sont... Pascal, c'est un peu compliqué. Moi, je crois que c'est une interpellation à nos autorités qu'ils fassent effectivement un grand effort pour aider les populations par rapport à la construction de cette route. Et Dieu merci, aujourd'hui, quand vous prenez cette nationale numéro 1, vous voyez un peu les bus, c'est quand même confortable. Je ne vais pas faire la publicité d'une société ici.
Oui, ou des compagnies.
Ou des compagnies. Mmh. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, pour aller vers le nord, le confort y est en matière de transport. Des bus, vous n'avez pas du tout de problème. Il y a également la Poste qui fait également un travail extraordinaire, énorme. Mais je voulais une fois encore inviter la Poste. C'est-à-dire que les gens se plaignent par rapport à leurs services. Parce que certains prennent, quittent ici à Lomé à 6 heures, mais sont obligés d'arriver à Dapont à 22 heures. Ça n'a pas de sens. Donc, je crois qu'il faut également changer cette situation et aider ceux qui quittent vite à arriver vite par rapport à ce qu'ils ont payé. Donc, je crois que, Pascal, une fois encore, pour me résumer, moi, je demande à l'État de faire les efforts pour nous construire effectivement cette route et voir également comment dévier ces titans-là pour éviter à ce que, lorsqu'on construit une route, que cette route-là, effectivement, prennent assez d'années avant de se détériorer.
D'accord. Merci pour cette interpellation, surtout à l'égard de l'État et notamment à l'égard alors du président du Conseil. Et le président du Conseil a rencontré le président sénégalais tout récemment, c'était le vendredi dernier, et cette visite que le président sénégalais a effectuée, bien sûr, à Lomé. Nous allons en parler, et j'en parlais même d'ailleurs dans mes mots introductifs. Et au cours alors de leur premier tête-à-tête, les deux dirigeants ont fait le tour de plusieurs sujets clés, notamment la paix et la sécurité, l'économie, la jeunesse, l'intégration régionale ou encore la culture. Et c'est justement les sujets qui ont été à l'ordre du jour. Gossom, on pourra dire avec ces sujets que l'axe Dakar-Lomé s'est encore renforcé, c'est un peu ça?
Avant de te répondre, je veux juste dire à Jacques que l'un des moyens pour préserver notre nationale, une fois qu'elle sera refaite, serait de penser à utiliser ce que nous avons à Bangéli comme montagne de fer pour en tirer un chemin de fer. Avec les chemins de fer, les marchandises, d'abord les opérateurs économiques paieront moins que quand ils chargent avec les titans. Les titans attendront les marchandises au bout. Soit c'est à Bassa, à Saint-Cassé ou Kara, je ne sais pas, mais la problématique du chemin de fer se pose au Togo si on veut vraiment préserver la nationale.
Oh, ça a été promis. Voilà, mais
maintenant, oui, mais au fleuve de l'espérance et tout.
Bref. On répond maintenant à la question de cette visite alors du président Diomaye Faye à Lomé.
Axe Lomé-Dakar. Je m'en tiens à ce qui a été servi comme communiqué aux populations. Mais en ces deux pays, il y a des situations dont on n'a pas parlé dont on n'a pas fait cas.
C'est-à-dire des non-dits.
Voilà. À la tête du Parlement de la CEDEAO, c'est une Togolaise. Mais au sein des parlementaires, il y a un certain Guy Marius Sagna. Pour ceux qui peuvent encore se souvenir. C'est bizarre que, après ces situations que nous avons connues, tant au Togo qu'au sein du Parlement, les deux autorités se soient rencontrées et que nulle part dans le communiqué, ces situations n'aient transparu. J'ai trouvé ça très bizarre pour ce qui est de l'intégration et autres. C'est quand tu prends ce communiqué en l'état, je ne trouve rien de substantiel,
ouais,
de consistant.
Il n'y a pas de matière.
Liberté ne va pas utiliser ce communiqué pour faire quoi que ce soit. Soyons francs avec nous. Parce qu'il n'y a rien. On aurait pu aller au-delà pour dire de quoi effectivement on a parlé. Si c'est juste pour ça, on ne peut pas avoir pris un avion juste pour parler de ça. Pascal, apprenons à être sérieux. On ne veut pas qu'on sache ce dont on a vraiment discuté. Donc, moi, je m'en tiens au communiqué, mais de ça, je ne peux... J'ai pas grand chose à dire à propos d'intégration économique. C'est pas les deux pays là qui vont parler de l'intégration africaine.
Entre temps, vous avez évoqué quand même un certain Guy Sagna qui est au sein alors du Parlement, de la CEDEAO, également à la tête, c'est une Togolaise. Mais le rapport, concrètement, c'est où?
tu marches vraiment sur les pieds de les pas de Sass Gaou. Parce que c'est vrai. Le premier, tu le sais mieux que moi, était dans les murs de la présidente, la seconde. Et ce qui s'en est suivi, nous savons tout. Il a été bastonné au point qu'il a dû quitter précipitamment notre pays pour rejoindre son pays. Et maintenant, même au Parlement de la CEDEAO, heureusement, et je ne finirai jamais de remercier la Chine qui a permis la démocratisation des androïdes et qui nous permet... lesquels nous permettent d'être au courant de beaucoup de choses. Donc on a vu au sein du Parlement de la CEDEAO des prises de bec et comment un député qui n'est pas du Togo, mais il est parlementaire de la CEDEAO, donc il est député du Togo aussi, s'est approprié ce que vivent les citoyens togolais. Et il en a fait écho au sein de ce Parlement-là. Donc, je ne sais pas si après ça, il y a eu d'autres choses qui auraient pu pousser le président de la République du Sénégal à se faire inviter par le président du Conseil des ministres du Togo. Point qu'ils aient passé une journée. Je ne sais pas s'il a dormi ici ou là, s'il est reparti. Après avoir utilisé du kérosène pour parler intégration économique.
D'accord. Oui, mais Jacques, c'est vrai, au-delà quand même de ce communiqué, on sait également qu'il y a quelques bruits entre le président sénégalais et son premier ministre ces derniers temps. Et je veux bien parler alors de Ousmane Sonko, puisqu'on connaît quand même le processus par lequel même d'ailleurs Diomaye Faye est venu au pouvoir. Mais est-ce que c'est peut-être une manière également pour le chef, le président du Conseil, d'inviter le président du Conseil d'inviter le président sénégalais pour en quelque sorte une médiation?
Non, il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est la diplomatie, au fait. Vous vous rappelez que Diomaye Faye était au Bénin, ici. Il est allé en Côte d'Ivoire. Il est allé également au Ghana. Donc, c'était de bon ton également qu'il vienne au Togo. Ça, c'est une diplomatie de visite qu'il est en train de faire, de prise de contact, au fait. Et
mais il a été signifié quand même que c'est sous l'invitation du président du Conseil du Togo.
On ne peut pas dire sous l'invitation de Pascal. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui est président? C'est lui. C'est lui seul qui peut inviter. Au Bénin, j'ai suivi un peu. Il était également invité pour participer au 1er août, au défilé du 1er août. Mais il a dit que son agenda ne le permettait pas. Vous voyez, quand il a quitté ici, il était l'hôte du Libéria par rapport à leur fête de l'indépendance. Donc je crois que ça, c'est une diplomatie. C'est-à-dire que ça, dans les règles diplomatiques, ça se passe. Donc on ne peut pas dire tout de suite qu'il est venu pour tel problème. C'est vrai que bon, ça peut être également des à côté d'une visite. Mais je ne crois pas que M. Fornia Singbe puisse s'attarder à parler de la brouille entre le Premier ministre et son président. Je crois qu'il a trop de choses à faire pour rentrer dans les affaires qui ne le regardent pas. Et puis l'autre aspect, vous savez, quand vous suivez un peu cette déclaration, il était dit également que, comme M. Fornia Singbe était désigné comme médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda, donc ça c'est des problèmes politiques auxquels également ils pourront faire allusion. Donc, mais les autres choses, comme je l'ai dit, c'est des à côté. Et puis vous savez que quand Diomaye Faye était venu au Bénin et quand il n'était pas venu ici, vous avez vu un peu la toile, comme ce que les gens ont dit. Moi, j'ai répondu sur une plateforme en disant non, que ça, c'est la diplomatie. Il peut venir un jour. Peut-être que c'est son calendrier qui ne l'a pas encore permis pour venir au Togo. Mais dès que son agenda va le permettre, il va venir. Et finalement, il est venu. Donc, c'est pour vous dire que en matière de diplomatie et en matière de relations, vous savez que je crois que c'est Jacques Chirac qui a dit que les intérêts priment devant effectivement les relations. Donc je crois que aujourd'hui, quoi qu'on dise, il est venu, il a passé quelques heures, il est allé au Libéria, il est reparti, contrairement à ce que mon ami personnel Gorson disait tout à l'heure, qu'il a gaspillé du kérosène. Pas du tout, il n'a pas gaspillé du kérosène pour venir ici. Certainement, il peut récupérer ce kérosène-là quelque part, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel accord lie le Togo et le Sénégal. Vous ne savez pas quel accord lie le Sénégal et le Bénin. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. C'est-à-dire que c'est une convention donnant-donnant. C'est-à-dire que peut-être que le Togo donne quelque part au Sénégal, le Sénégal également donne quelque part au Togo. Donc c'est des relations. Donc je crois qu'en matière de diplomatie, il ne faut pas toujours dire que tel ne peut pas visiter l'autre. C'est faux. Ils peuvent se visiter. Et ce n'est pas sûr que ce quoi vous pensez qu'il puisse évoquer ce genre de sujet. Je ne pense pas qu'il puisse rentrer dans les cuisines, et peut-être ce qu'on pourrait appeler que ça, c'est les cuisines des femmes, ça. C'est-à-dire que c'est les femmes peut-être qui peuvent se retrouver et dire ah, tu sais, mon mari a fait ceci, mon enfant a fait ceci. Entre femmes, elles peuvent se dire ça. Mais entre hommes, entre chefs d'État, quand même, il y a plus sérieux. De passer sur certaines choses. Moi, c'est ce que je pense.
D'accord. C'est ce que vous pensez, oui.
J'ai failli oublier cet aspect. J'ai encore souvenance que le président de la République, Diomaye Faye, et le président du Conseil, Fornia Singbe, étaient les deux présidents désignés pour la médiation entre l'AES et la CEDEAO. Je ne crois pas avoir menti.
Ça, c'est bien ça.
Voilà. On ne nous a pas encore dit que cette médiation s'est terminée ou continue. J'aurais aussi aimé qu'on y fasse allusion dans ce communiqué, parce que si ces deux-là doivent se rencontrer, entre autres sujets, on devait parler des liens qu'il y a aujourd'hui entre la CEDEAO et l'AES, puisque les deux étaient les présidents désignés comme facilitateurs. Pourquoi après une rencontre, on n'est pas jugé bon de ne serait-ce que d'insérer une ligne concernant cette médiation, à moins que elle est trop aboutie ou alors qu'elle ait fait fit et on ne veut plus en parler. Parce que je m'interroge, c'est les deux personnes, elles se sont rencontrées, pourquoi elles n'en ont pas parlé?
Vous avez raison quand même de vous interroger. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'interrogent sur les réseaux sociaux par rapport à cette visite lors du président sénégalais Diomaye Faye au Togo. D'aucuns pensent que le pays est déjà en crise par rapport même d'ailleurs à ces derniers développements de la vie sociopolitique alors du pays, des manifestations qui ont été interdites par-ci et autres. Mais on connaît le Sénégal avec son processus de démocratisation, mais finalement d'aucuns reprochent cela au président sénégalais. Mais comment se fait-il qu'il vient dans un pays où les manifestations sont interdites?
Bon, là c'est pour emprunter les mots de Jacques. En matière de diplomatie, on ne peut pas blacklister un président de la République ou un président du Conseil parce que il restreint l'espace de liberté pour les associations ou pour les manifestations. Il y a d'autres sujets qui obligent ces personnalités-là à se rencontrer malgré leur divergence sur certains sujets. Donc, C'est ça même l'essence de la liberté, que ceux qui sont sur les réseaux sociaux disent, s'expriment sur leur ressenti, ce qu'ils pensent de telle ou telle rencontre. C'est de bonne guerre. C'est leur droit de penser ainsi. Mais si dans la réalité, c'est tout à fait autre chose, ceux-là n'auront qu'à poser leurs yeux pour voir ce que l'avenir leur réservera. Mmh. Mais on ne saura jamais, au grand jamais, leur tenir rigueur, le fait qu'ils aient interprété la visite d'une manière ou d'une autre. Non, c'est aussi ça l'essence de la démocratie.
Mais oui, Jacques, au-delà de tout, c'est vrai que nous en avons toujours parlé dans cette émission, mais est-ce que au niveau de la communication, surtout de la présidence, on n'a pas besoin forcément pour ces gens de visite d'organiser soit une conférence de presse pour que des journalistes posent alors des questions à ces présidents ou à ces gens-là qui viennent alors au pays pour qu'on ait la quintessence même d'ailleurs de ce qui a été dit?
Oui, Pascal, ça peut se faire. Et comme ça ne peut pas également se faire, parce que quand vous suivez un peu les canaux de communication de la présidence, il partage souvent c'est le lieu de remercier le directeur de la communication, M. Wodevi, qui nous envoie souvent les comptes rendus de ce qui se passe au niveau de la présidence en matière d'audience, en matière d'activité, tout ça du chef de l'État. Du président, autant pour moi, du conseil. Il le fait souvent. Il le fait pour tout fin utile par rapport aux audiences du président du conseil. Et quand vous parlez, par exemple, d'une conférence de presse, ça dépend également de comment organiser cette conférence de presse. Vous vous rappelez que cette rencontre a eu lieu quand le président du conseil était à Accra. Il a dû revenir recevoir le président et après, le train continue vers le Libéria, comme je le disais par rapport à la fête de l'indépendance du Libéria. Donc, moi, je crois que c'est vrai, une conférence de presse peut se faire, parce que devant, souvent même à l'aéroport, c'est des choses également qui peuvent se faire. Mais s'ils ont décidé, parce qu'à ne pas organiser un point de presse, ce n'est pas toi et moi qui allons les forcer à le faire. Moi, je crois que c'est quand ils décident de le faire qu'ils le font. Je me rappelle que entre-temps, au niveau de l'aéroport, quand certains chefs d'État venaient avec l'ancienne appellation du président de la République, M. Faure Gnassingbé, il y a des journalistes qui allaient souvent, qui posaient des questions aux chefs d'État présents à l'aéroport. Et après, bon, ils s'en vont. Mais bon, depuis, il faut reconnaître que c'est des choses quand même, comme tu l'as dit, il faut demander aux chefs d'État de le faire. Et autre aspect, vous allez voir que certains chefs d'État même, quand ils reviennent, par exemple, des voyages, c'est au niveau de l'aéroport qu'ils rendent compte de ce pourquoi ils se sont déplacés. Les journalistes sont là, ils sont au courant de ce qui se passe. Et d'autres également organisent ce qu'on appelle le café des journalistes. C'est-à-dire que si le chef de l'État ne doit pas aller, au moins un ministre qui a participé au voyage rencontre les journalistes pour leur faire le point de ce que le chef de l'État allait faire dans d'autres pays. Et puis là, les journalistes également tout de la matière à écrire de la matière également, à parler au niveau des radios et des télévisions. Donc je crois que c'est des choses quand même qui peuvent se faire. Tout dépend de comment nous-mêmes, en tant que journalistes, Pascal, on doit s'organiser, parce que nous devons avoir des pôles au niveau effectivement de la présidence de la République et le PC également. Et également avoir des pôles au niveau du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Ça, c'est notre droit. C'est-à-dire que c'est vrai que nos confrères de la presse publique sont à ces endroits. Ils nous envoient souvent des comptes rendus. Mais il faudrait que nous puissions également avoir des pôles pour pouvoir effectivement avoir ce genre d'informations. Donc, c'est une bonne chose. Si nous nous organisons en tant qu'organisation, en tant que journaliste, je crois que c'est des choses qu'on peut quand même demander à l'État, parce que c'est notre droit. Notre droit avoir également l'information, avoir également droit à ces sources-là pour pouvoir partager, ventiler ce qui se passe en matière de diplomatie avec d'autres pays.
Ah mais oui, Gossam, je pose la question parce que sous d'autres cieux, ça se fait. C'est-à-dire même d'ailleurs après une visite d'un président, et d'habitude, soit ce président fait un point de presse ou organise une conférence de presse pour expliquer exactement ce pourquoi il est venu alors dans le pays. Mais ici, on est réduit quand même à un compte rendu ou à un communiqué à la fin alors de sa visite.
Et c'est en ça que je me dis, ça, cette façon de faire est dans la droite ligne de ce de comment notre constitution est bafouée. Je m'explique. Il est dit que après un exercice, le chef de l'État doit faire l'état de la nation à ceux qui disent gouverner. Mais de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu l'ancien président de la République faire l'état de la nation au peuple. Si c'est ainsi, que dirons-nous du fait de rendre compte après une visite? Alors que, comme tu l'as dit ailleurs, c'est consacré. Les journalistes n'ont pas besoin de s'organiser avant de se voir servir ou avant de se voir invité. Quand on veut franchement rendre compte, quand on comprend que on gouverne par et pour le peuple, on doit surprendre ce peuple, on doit surprendre ces médias en leur disant le président revient tel jour, vous êtes invité, préparez vos questions pour les lui adresser. Je ne ferai qu'applaudir. Mais s'il faudrait que ce soit nous qui faisions le plaidoyer, c'est comme si on va faire Al-Barka, on va quémander quelque chose qui devrait être notre droit. Ce qui est sûr, qu'on ne fera jamais partie d'une quelconque délégation, par exemple, ou d'un quelconque comité pour faire du plaidoyer. Je ne ferai pas. Parce que c'est notre droit. Si on ne veut pas nous l'accorder, ok, on va ainsi. Ailleurs, on le voit, le grand président descend de l'avion et ils sont harcelés par des médias qui veut servir de la matière avant le lendemain. Et ces présidents-là se plient. Pourquoi ailleurs et pas ici?
Oui, mais justement, c'est ça la question. Pourquoi ailleurs et pas ici, Jacques?
Non, mais je suis un peu surpris de ce que mon confrère Gonson dit. Tu as dit que, confrère Gonson, tu ne peux pas te lever et aller à la présidence comme ça pour dire « Je suis venu pour interroger le président de la République, bien le président du Conseil. » Il faut toujours envoyer quoi? Il faut toujours envoyer le protocole de questionnaire avant que le président du Conseil ou bien le président de la République de se prépare avant de te recevoir. Même chez ton beau-père même, chez qui tu as pris ta femme, tu ne peux pas te lever et aller frapper à la porte de ton beau-père comme ça. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que ça, c'est des règles protocolaires. C'est des règles protocolaires et qui, dans un État, comme il l'a dit, c'est vrai, quand il dit qu'on essaie d'arracher des paroles au président et autres, ça c'est autre chose, ça c'est dans un autre cadre. Mais ici, comme j'ai dit, si en tant que journaliste, nous voulons avoir effectivement les portes d'entrée au niveau de la présidence, au niveau effectivement du Conseil, c'est-à-dire que c'est à nous de nous organiser, parce que nous tous ne pouvons pas nous lever comme ça pour aller.
Oui, mais Jacques, on te comprend très bien. Oui. Le problème, c'est que, sous d'autres cieux, c'est que c'est bien organisé de telle enseigne que, allez, quand il y a de ces visites, il y a déjà cette promptitude même de la part de la présidence où on organise un point de presse ou une conférence de presse rendre compte de ce qui s'est passé.
Oui, c'est ce que j'ai dit, Pascal, pour les grandes démocraties dont il parlait tout à l'heure.
Et on voit des pays, même africains.
Non, écoutez, quand vous allez, par exemple, vous allez aux États-Unis, vous allez par exemple en France, vous allez voir que les déplacements souvent de Macron, il y a toujours un journaliste souvent de RFI, peut-être TV5 ou bien France 24. C'est-à-dire qu'ils ont l'accréditation au niveau effectivement de la présidence. Et lorsque par exemple le président va se déplacer, on appelle et on envoie un journaliste. C'est ça que moi je voulais en venir. C'est-à-dire que si nous voulons par exemple avoir accès, c'est-à-dire se déplacer avec le président ou bien le président du conseil, qu'on nous donne d'abord l'accréditation. Je ne peux pas me lever avec mon organe, l'avion du président est prêt à décoller, je vais avec ma valise pour dire que je vais partir avec lui. À moins que, si j'ai les moyens de payer, par exemple, moi, mon propre billet pour mon organe, pour assister à une conférence auquel le président est convié, là, c'est autre chose. Mais, quand vous prenez la plupart des présidences, Pascal, les organes ont leur accréditation. Lorsque le président va se déplacer, on appelle, par exemple, ces organes-là d'envoyer quelqu'un pour voyager. Donc, je crois que c'est pourquoi je disais, Pascal, on peut le faire. Si on s'organise bien, ça, ce n'est pas le fait d'aller commander, comme Gonson le disait. Non, on ne va pas pour commander. Mais ça, c'est notre droit qu'on puisse effectivement voyager avec un chef d'État ou bien voyager avec le président du Conseil. Ça se fait. Si Macron se déplace avec les journalistes, je ne pense pas que c'est au Togo ici qu'on dira qu'on veut corrompre les journalistes parce qu'ils sont en train de se déplacer avec le président. Vous savez que dans le temps, ça se faisait. Quand moi, j'étais à la tête de l'IRATEL et du Conseil national des patrons de presse, nos confrères voyageaient. Ils voyageaient, ils revenaient, ils rendaient compte par rapport à ce qu'ils ont vu, ce à quoi ils ont assisté. Mais c'est entre-temps, bon, il y a eu des problèmes et finalement, ce programme a été suspendu. Mais je crois que si nous nous organisons, Pascal, il n'y a rien qu'on ne pourra pas obtenir. Il suffit seulement qu'on s'organise et puis ceux qui sont devant nous pourront peut-être avoir accès, céder par exemple à notre demande. Mais si on est de côté, pensant que, bon, c'est quand par exemple M. Faure Gnassingbé va à Accra, on va essayer de l'approcher pour lui arracher un mot, est-ce que les militaires là vont vous laisser? Ils ne vont pas vous laisser, vous n'aurez même pas à avoir accès au périmètre pour aller vers lui. Je me rappelle une année, Pascal, on était allé là-bas.
Après ça, le droit d'avoir accès à l'information.
Ah oui, je me rappelle. C'est-à-dire qu'on avait fait signe à un confrère de venir. Le confrère s'est avancé, mais il fallait voir comment les militaires l'ont traité. C'est-à-dire qu'ils l'ont saisi par derrière, ses pieds l'a balancé comme cinglé. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, on peut vous faire même signe de venir, mais si vous, là, le périmètre sécuritaire, ils ne vont pas vous laisser. Donc, organisons-nous. Si on s'organise, on n'aura pas du tout de souci. Donc, c'est comment je pense.
D'accord.
Si en France, on peut voyager avec certains, ce n'est pas au Togo qu'on ne peut pas le faire.
D'accord. On va s'intéresser à cette note que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la chefferie coutumier, le colonel Awate Odabalo, a adressée au maire. Et cette note, ça a été adressé bien sûr sur le 23 juillet dernier. Dans cette note, on constate tout simplement que pour le moment, déjà avec ces municipales, il y a la transition qui va se jouer avant que les conseillers municipaux, les nouveaux d'ailleurs, ne prennent fonction, et dans l'optique de les amener à assurer une transition administrative ordonnée et conforme alors aux principes de bonne gouvernance locale, le ministre Awate a donné des consignes claires aux maires. Il leur demande d'exécuter les budgets communaux dans les strictes limites des prévisions budgétaires approuvées en s'abstenant de tout engagement financier non autorisé, et notamment pendant la période de pré-campagne précédant alors l'installation des nouveaux conseils. Le ministre invite aussi les maires à régulariser toutes les situations en instance, notamment sur le plan administratif, budgétaire et comptable, afin de donner une image fidèle de la situation réelle de la collectivité. Et pour finir, le patron de l'administration territoriale précise qu'une liste des documents à apprêter pour la passation des services sera communiquée ultérieurement au maire. Et Gosson Ketomania, alors on dira quand même que c'est dans l'ordre normal des choses, cette note alors du ministre de l'administration.
C'est plutôt dans l'ordre anormal des choses, Pascal. C'est de la normalité. Moi, tout petit, pour avoir servi dans un organisme, Bonfonden, de triste mémoire. Avant, quand tu prends service, tu as tes prérogatives, tes attributions, les passations, tu as tout. Avant même un trimestre, ce n'est pas à la fin qu'un ministre va sortir une note pour t'enjoindre à faire ceci, faire cela. Quand tu prends cette note dans le sens inverse, moi je sens, pour ma petite analyse, que soit un ou des maires se sont rendus coupables de cet acte, mais que le ministre ne veut pas appeler les noms, ne veut pas dévoiler qui en sont les coupables. C'est pour ça qu'il s'est réfugié derrière cette note-là. Autrement, c'est très mal vu. C'est très mal vu, parce que ça veut dire que nous avons élu des maires en 2019 sans que ces maires la sachent les limites de leur attribution. C'est très grave, Pascal. Je suis à sa place, je me serais abstenu et me serais concentré sur ceux des maires qui se sont rendus coupables de certaines situations. Je suis sûr qu'il y en a eu. Autrement, ça ne peut pas lui tomber sur la tête. Non, 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 non. Non, 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 non. On n'est plus des enfants. S'il prend son courage indien et interpelle ceux qui se sont rendus coupables de ça. Et si on n'a pas besoin de notre... Vous, la personne fait la passation, si elle sait qu'elle ne doit pas dépasser cette limite et qu'elle le fait, mais que la loi frappe cette personne, pour cette note-là va servir à quoi? Franchement, j'ai trouvé ça très malheureux, très triste. On ne devrait plus être à ce stade-là, Pascal. On ne devrait plus être... Tu ne vas pas dire, par exemple, que quand on nomme un ministre, et ça doit être à la fin de son mandat, qu'il doit savoir les limites à ne pas dépasser. Non. Ça ne se fait nulle part comme ça. Si ça, c'est autre chose qu'on veut semer cette façon, cette pratique-là, c'est dommage.
Jacques, comment vous analysez quand même cette note du ministre?
Bon, j'ai lu la note du ministre, mais je ne sais pas. Est-ce que la note concerne, par exemple, l'aval ou bien l'amont de la gestion de nos mairies? Est-ce que c'est à la fin ou bien c'est le début du processus jusqu'à sa fin? Parce qu'ils sont déjà à la fin. Ils sont déjà à la fin. Donc, je crois que tout ce que le ministre peut maintenant faire, c'est de demander au maire sortant de commencer par préparer, par exemple, faire un bilan de ce qu'ils ont eu à faire. C'est-à-dire que ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que ceux qui viendront maintenant prendre ces mairies-là puissent s'inspirer du rapport que ceux qui étaient restés dans cette mairie-là ont fait, pour que les autres là ne tombent plus encore dans les travers de ce qui s'est passé. Donc je crois que, je ne sais pas si dans l'optique là que le ministre a sorti la note, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé effectivement le ministre à sortir cette note, mais ma compréhension, moi c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que il faudrait que ceux qui vont venir désormais ne puissent plus encore commettre les mêmes erreurs que ceux qui sont en train de partir. Donc si c'est ça, il faudrait aujourd'hui que cela soit encadré par rapport au rapport que les uns et les autres auront à produire après effectivement leur départ et après la prise de fonction de ceux qui également vont s'installer. Donc je crois que si c'est dans ce cadre-là que le ministre a sorti cette note-là pour demander effectivement au maire, je crois que ça ne devait pas créer de problème. Moi, c'est ça ma lecture de la chose. Je ne pense pas qu'en voulant par exemple demander à ces maires sortants de produire des rapports en bonne et due forme, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ceux qui vont prendre effectivement les rênes, que les mêmes personnes ne puissent plus tomber dans les travers de ce que les autres ont eu à faire par rapport à leur gestion.
Oui, pour ce qui est des rapports et du fait que certains se seraient rendus coupables de bonne ou de mauvaise gestion, mais nous avons une institution qui est payé par l'argent du contribuable tous les mois, la Cour des comptes et la Cour des comptes régionaux. Ça, ils sont là pour faire quel travail. Les maires terminent leur mandat. Après, la Cour des comptes va passer pour auditer tout ce qui a été fait. S'il y a des malversations, la Cour des comptes va produire des rapports dont nous, hommes de médias, nous allons nous saisir pour amplifier. Et ceux-là qui se seront rendus coupables de bêtises, on va, avec photo à l'appui, on va tout dénoncer. Mais pourquoi, une fois encore, que le ministre qui est, normalement, le gouvernement a démissionné.
Oui,
donc lui aussi devrait s'occuper des affaires courantes. Voilà. Donc, et non de demander au même, maintenant s'ils l'ont déjà fait, qu'est-ce qui va se passer? Puisque aucune mesure de coercition n'est inscrite dans l'anneau de circulaire. La note circulaire. S'ils ont déjà outrepassé, qu'est-ce qui est prévu dans la note? Rien. Mais ce n'est pas parce que rien n'est prévu que quand la Cour des comptes ou bien l'inspection générale d'État va passer dans ces mairies et va constater des choses, elles ne vont pas en parler. Elles en parleront. Donc, grandissons, allons au-delà de ces petitesses.
Franchement. Mais Jacques, est-ce que Gosson évoque, est-ce que ce n'est pas aussi vrai que ça? Parce qu'il y a déjà la Cour des comptes qui est là, et quand il s'agit justement de faire les comptes, de présenter les rapports, la Cour des comptes devait s'en saisir.
Oui, Pascal, si par exemple le ministre rappelle ça, et que les maires savent qu'il y a également la Cour des comptes, Pascal, moi je ne vois pas un problème en ça. Je ne veux pas dire de problème. C'est pourquoi je disais à l'instant que si, par exemple, la note du ministre voudrait rappeler, par exemple, au maire de pouvoir faire les rapports pour que ceux qui vont venir occuper les mairies puissent s'en servir de ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui n'a pas marché dans leur gestion, ce qui n'a pas marché au niveau du premier effet de leur mairie, mais c'est des choses sur lesquelles ils pourront se baser. Moi, je ne parle pas des dépenses hein, par rapport à ce que Godson disait tout à l'heure, parlant de la Cour des comptes. Moi, c'est pas dans ça que moi je rentre, mais je voulais parler de la gestion. Comment les choses ont fonctionné.
C'est-à-dire la gestion administrative.
Administrative et autres. Donc, je crois que c'est des choses quand même. Moi, je crois qu'il faut apprendre à faire ce genre de choses parce que lorsque vous quittez, par exemple, un poste, il faut toujours que vous puissiez laisser des traces. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Lorsque l'autre qui va occuper le poste, il ne va plus recommencer tout à zéro pour qu'il ne se retrouve pas dans ce qu'il est en train de faire. Il sait déjà ce que vous avez fait, là où vous avez échoué, là où vous avez réussi. Et il pourra également s'en servir de ça pour avancer. Mais lorsque vous quittez par exemple un poste, Pascal, vous ne laissez rien. L'autre qui vient, il tombe dans la soupe. Mais il aura des problèmes. Donc, je crois que moi, c'est dans ce cadre, c'est dans ce sens-là que j'ai pris cette note. Mais si Gosson pense que le ministre a outrepassé, par exemple, ses prérogatives, en sortant également cette note, moi, ce n'est pas ma conception de la chose. Mais je crois que le plus important par rapport à ces mairies-là, ceux qui vont rester et ceux qui vont partir, il faudrait laisser des traces pour que ces traces-là soient visibles et qu'on puisse toucher effectivement la réalité de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans ces mairies.
Merci beaucoup Jacques, merci cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe de l'émission. C'est sur nos deux numéros, 90-86-35-35-91-36-63-75 et aussi sur notre numéro WhatsApp, 90-45-78-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5
Nous reprenons l'antenne et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Vous pouvez réagir. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, je pense que vous parlez du ministre qui a écrit une déclaration.
Oh, une note.
Une note. Bon, je pense que c'est ce ministre même qui a écrit une lettre depuis le 12 mars 2025 à l'Assemblée nationale pour qu'on renouvelle la CENI. Est-ce que l'Assemblée a exécuté? Légalement, on devait renouveler la CENI. Mais le ministre a écrit une note à l'Assemblée pour que la CENI soit renouvelée. Est-ce que la CENI a été renouvelée? C'est le chef de l'État qui a ordonné le ministre d'écrire cette note. Bon, moi, je pense que ce qu'il peut faire avec la note, ou bien avec toutes les mairies qu'ils ont récupérées, nous, on les attend pour voir comment ils vont gérer le Togo pour que le Togo soit comme le Bénin. Merci.
Merci Pélé pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, je sais par où commencer. La route est depuis 2020 plus. Vous rappelez, j'avais dit qu'au moins si avec l'unique route, les trous, les nids de poules là, on n'a qu'à nous boucher ça. Mais rien. Quand vous circulez, c'est des risques à tout moment. Soit vous n'avez même pas un véhicule devant vous, vous tentez de virer et puis vous rentrez dans la brousse tout seul. Bon, et il parle de l'axe Lomé-Dakar. C'est chemin de fer, il veut parler de chemin de fer ou bien. Au moins, ils n'ont qu'à arriver à séquencer d'abord, non? Sinon, ils cachent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les
gens qui sont Monsieur Nyamavo.
Pardon, oui.
Quand on parle de l'axe Lomé-Dakar, c'est la coopération, bien sûr.
Ah, ok. Ah, oui, bon, la coopération, là, c'est bon, c'est une diplomatie. Là, ça passe. Donc, par rapport à l'autre du ministre, c'est, comment l'appelle-t-on, c'est pour appeler à ses amis, hein, qui ne sont pas à tout le monde. Parce que vous allez savoir que même dans Unir, les candidatures, à voir les candidatures, même les anciens maires sont soulevés. Donc, c'est à eux qu'on dit qu'il faut faire des surfacturations déposées avant la passation, quoi. Sinon, on ne comprend pas. Toi, tu as géré quelque chose et on va te rappeler de préparer la passation, non? Donc, ça dit que si tu as à bouffer, donc il faut préparer les documents à garder avec des surfacturations. Bonne émission.
Merci beaucoup, M. Nyamava, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. 90 86 35 35 91 36 33 75. Bonjour, le plateau et à Centrale FM à Sokodé, grâce à qui je vous suis en tout moment. Pour ma première fois depuis que je suis l'émission, je ne suis pas d'accord du grand frère Jacques que j'admire beaucoup concernant la visite du président sénégalais qui est un vrai démocrate. Nous aussi, Togolais, on a soif de l'alternance. C'est Mohamed de Sokodé. Allô?
Allô?
Oui,
mon directeur.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonjour tout le plateau. Mmh. Bonjour. Monsieur Jacoti et les autres, monsieur Guasson,
qui
m'a fait rire. Il dit que c'est anormal ce qui se passe. Bon, je voudrais vous prier, il faut que les journalistes s'organisent, comme l'a dit monsieur Jacoti, pour aller vers le président. Parce que le président il ne peut pas vous faire appel. C'est vous qui savez que c'est ça là qui manque, c'est ce qu'il faut. Moi, en tant que papa, je voudrais vous conseiller. On dit aux gens d'aller et que le président n'a qu'à les appeler, le ministre de l'éducation n'a qu'à appeler. Non, lui n'est pas dans les problèmes. C'est vous qui voyez ce qui doit se faire. Donc, je vous prierai de vous organiser. On ne va, il ne va pas vous renvoyer. Il faut voyager avec lui ou bien ce qui se passe. C'est ce que j'ai à vous dire. Si j'ai mal fait, excusez-moi. Merci beaucoup.
Non, non, mais papa Sibiti, vous n'avez pas mal fait. C'est votre manière de le dire et votre manière de penser aussi. C'est votre opinion hein, des sujets discutés ici au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Mahouto.
Oui, bonjour le plateau.
Oui, bonjour.
Vous savez, la note du ministre, ça montre que, comme des fois, le Togo est mal gouverné. C'est la même chose que les Africains font. Une question de l'État qui s'enfuit les gens de ne pas voler. Vous avez trouvé ça dans un pays dans le monde. Jamais, jamais vu. Ça veut dire que le Togo est mal gouverné. Même la 4e République là, obligeait le président de la République, le PC, aujourd'hui là, de rendre compte aux députés. Combien de fois il a fait pendant 20 ans? Combien de fois il a fait? Maintenant, ils ont rappelé tous les mairies. La finalité. Qu'est-ce que ça va changer dans le pays? Allez dans les marchés, ceux qui ne sont pas dans les marchés, ça ne va pas au Togo là. Ce régime, il est à bout de soif là. Ils n'ont plus rien à nous donner, nous les Togolais là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mahouto, pour votre intervention. Je voudrais quand même que vous vous intéressiez au sujet débattu, bien sûr, ici au Club de la Presse de ce lundi, bien sûr. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, c'est Alice.
C'est Ali.
Ben.
D'accord, Ali, allez-y.
Bon, je ne sais pas ce que vous. Quelle conception, monsieur. Jacques et monsieur. Le vieux qui vient d'appeler font du Togo. Le Togo n'est pas un royaume. Chaque fois, on nous dit d'aller faire demander au PC. S'organiser comment? La présidence a le devoir de mettre à votre disposition les informations, et non d'aller commander. Le vieux, là, chaque fois, il dit de s'organiser.
Non, 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 mais oui, mais écoutez, monsieur Ali. Monsieur Ali.
Oui.
Oui, mais si vous voulez parler, il faut toujours quand même de la courtoisie. Il faut de la courtoisie. C'est très important. Il faut de la courtoisie. C'est une émission de grande écoute. Des gens nous suivent et quand vous voulez parler, parlez avec courtoisie. C'est très important.
Où est manque de courtoisie dans ce que je dis?
D'accord.
Je dis, c'est chaque fois ce que, quand on propose et on donne une idée qui est du normal et qu'on doit nous faire, eux nous disent d'aller toujours demander.
Mais
Jacques là-bas,
monsieur Ali,
en tant que président.
Monsieur Ali,
Décidément, monsieur Ali ne veut pas m'écouter. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume,
ça peut aller maintenant.
Oui, ça peut aller. Votre nom, c'est?
C'est Patrick.
Ah, Patrick.
Oui.
C'est le commandant.
Il y a deux jours.
Oui, justement, ça va. On dit merci à Dieu. Et chez vous?
Oh, c'est Dieu vert, c'est noir.
C'est toujours commandant quand même.
Oui, non, c'est commandant, c'est commandant. Mais le terrain colonel n'est pas loin quand même.
D'accord. C'est notre souhait.
Voilà, je profite pour saluer M. Sass Daou et puis notre ami, mon deuxième commandant. Là.
Oui, Abassi Issaka.
Abassi Issaka, justement. Mm. Alors, je voulais m'aborder dans le même sens que le grand frère M. Jacques Jacouti. Effectivement, concernant le problème que nous rencontrons sur notre route nationale nommée Sekasera. Tout ce qu'il a eu à développer, M. Pascal, il a arrangé en disant que si quelqu'un n'a pas emprunté cette voie, ne peut pas comprendre à fond ce que nous voulons dire par là. Vous savez, non seulement tout ce qu'il a eu à citer, il y a un point qui moi, me dérange. Et ce point, c'est quoi? Quand vous sortez de Lomé, eh bien, les usagers, ceux qui sont en moto, ne portent plus le casque. Je ne sais pas si la loi, là, se limite seulement à Lomé. Quand vous arrivez à Tapamé, le comble, c'est à partir de Dapaon, dans la ville de Dapaon. Mais Makara, les gens ne portent pas de casque, on ne comprend pas. Et pourtant, le risque est là. Le risque est là. La loi, là, se limite c'est seulement à Lomé. On ne comprend pas. Et de deux, ce qu'il a dit concernant le point de péage, là, je crois que pour ce pouvoir, il y a un travail qui est en train de se faire présentement. Il y a même un cataclysme qui est en train de travailler. Je pense que c'est ça qui fait que le point là, il y a un peu d'embouteillage. Je pense qu'après les travaux, là, ça va revenir à la normale. C'est là où je voulais en venir, quoi, en fait.
D'accord.
Merci, bonne émission à vous.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Allô?
Oui, c'est Ali qui revient.
Oui, Ali.
Je dois dire que quand on parle, ce n'est pas pour détruire qui que ce soit.
Oui, mais on a eu
c'est
une manière.
Paix pour le tout.
Justement, Ali.
Parce que, oui.
Ali. Oui. C'est pour la paix, hein, justement, que vous appelez. Mais il y a une manière de le dire pour que l'autre ne se sente pas aussi frustré.
Voilà. Vous nous parlez toujours d'une manière.
Oui, quand vous dites, quand vous dites.
Déjà, ça rouille des droits. Oui, mais... On détruit tout un pays.
Non,
vous
non,
parlez
non,
de manière.
Non. Mais monsieur Ali.
Oui.
Quand vous dites peut-être ce vieux-là. C'est une manière quand même péjorative de parler.
Ah bon?
Oui, mais justement.
C'est péjoratif?
C'est justement, quand vous dites cela, c'est une manière péjorative.
Bon, ok. Allons-y à l'essentiel.
Oui, allez-y maintenant.
Et dire que les journalistes doivent s'organiser pour aller demander l'information. C'est être contradictoire, en contradiction avec vos dispositions. Lui, bon, l'ancien président de CONAP, là. Je ne sais pas quelle structure Jacques était, mais c'est lui qui doit vous rappeler là-bas que vous êtes en bonne position de dire que vous devez avoir des informations à l'arrivée des présidents. Je vous invite là à saluer premièrement là. C'est son devoir, c'est pour ça qu'il a été recruté après sa retraite là-bas. Donc, ne nous faites pas savoir que le Togo est un royaume, il faut aller demander au roi. Non. C'est république. C'est une manière de vous dire que ceux qui disent que sans le PC, le Togo va souffrir là, c'est faux. Togo vivra sans PC.
D'accord. Merci beaucoup, Ali, pour votre intervention. Maintenant, nous allons recevoir notre dernier auditeur. C'est, je pense que Michel, le dernier auditeur.
Bonjour,
est allô, bonjour. Oui, vous y êtes. Bonjour.
Oui,
allô, votre nom c'est.
Allô?
Oui, je vous écoute. Votre nom?
Allô?
Ah, décidément, il n'a pas de retour, Michel. On va se passer alors de cet auditeur. On reçoit un autre auditeur qui est maintenant le dernier. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame.
Allô, bonjour. C'est ici.
Oui, voilà. On n'écoute pas la voix ici.
À vous tous là-bas.
D'accord, merci beaucoup.
Bon, maintenant, moi, je m'adresse au président là. Mais pourquoi il a décidé de nous pourrir la vie pour rien. fait, attendez, comment il peut confisquer toute une république, hein? Prendre en otage, c'est pas normal, c'est pas vrai.
Allô,
toutes
madame
les Messi? Institutions sont périmées.
Allô, madame Messi?
Le gouvernement, il n'a pas... Il gère la boutique comme son bien. C'est pas bon, c'est pas normal.
Allô, madame Messi?
Oui.
Vous avez écouté l'émission depuis le début?
Le début, tout ça, là, moi, je sais que ça revient... on est, je sais pas, on n'est pas bien dans le pays.
Non, mais
moi,
l'essentiel, oui, mais l'essentiel, mais c'est de se prononcer sur le sujet.
Vous avez parlé du Togo, non?
On a parlé du Togo, mais des sujets. Des sujets spécifiques. On a parlé des sujets spécifiques. Merci beaucoup, madame Messi, pour votre intervention. Madame Messi est la dernière auditrice, hein, pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis cette réaction rapidement. Bonjour, les amis. Vous savez, en matière de communication, le Togo est différent des autres pays. On dirait que mon frère Djakouti, oublier certaines choses. Le gouvernement ne va jamais voyager avec un journaliste de l'opposition, c'est-à-dire un journaliste qui critique le gouvernement dans un pays normal et démocratique. Ça se fait. Que Dieu vous bénisse. C'est M. Nyamaku qui nous a écrit ce message. Il y a beaucoup quand même qui ont réagi également sur notre numéro WhatsApp. Bonjour, le club de la presse. Moi, je pense que la note du ministre veut seulement nous rappeler l'importance de la reddition des comptes. Le bon sens étant la chose la mieux partagée du monde, je pense que c'est très important pour qu'on inculque cette notion aux jeunes, c'est-à-dire de toujours rendre compte de tout ce que nous faisons, aussi minime, soit-il. C'est Adi qui nous écrit depuis Adapame. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Jacques?
Non, Pascal, juste dit merci pour... le professionnalisme, quel tu gères le débat, juste te dire un grand merci.
Merci beaucoup, Jacques.
Comme tu l'as si bien dit, nos auditeurs qui appellent, personne n'est contre quelqu'un, personne. C'est-à-dire que nous sommes ici, peut-être certains sont plus âgés que nous, qui nous écoutent, peut-être nous aussi nous sommes plus âgés que certains qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont plus de diplômes que nous, mais... Et si nous sommes sur la radio et puis on parle, c'est pas dit que nous connaissons tout, hein, Pascal. Nous n'avons pas la connaissance infuse des sujets, mais c'est le pan de ce que nous connaissons, c'est ce que nous essayons de transmettre au peuple. Et plaise à ce que certains soient d'accord et que certains ne soient pas également d'accord. Et ça, c'est normal, Pascal. Il n'y a jamais, vous ne trouverez jamais une femme qui est complète dans sa vie, hein. Il y a toujours des choses que vous pourrez améliorer dans votre relation avec votre épouse. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est le vécu quotidien des êtres humains que nous sommes. Donc, plaise aux uns aux autres de se calmer lorsque nous évoquons des choses et lorsque tu rappelles également d'autres par rapport à certaines manières, à certains comportements. Vraiment, merci. Merci.
Merci beaucoup, Jacques. C'est notre manière d'apporter cette contribution.
Je souhaiter prendre guérison à notre confrère Didier Assogba, qui n'a pas pu effectuer le déplacement ce matin.
D'accord, merci beaucoup, Jacques. Jacques, si je reste toujours avec toi pour ta note de fin d'émission.
Je voudrais sincèrement donner, comme je viens de Dapaon, ce que j'ai vécu là-bas avec le gouverneur Afo Atcha, je voudrais vraiment lui donner 9 sur 10.
9 sur 10,
c'est important.
Et c'est une autre objectif?
Oui, parce que, Pascal, j'étais au cœur de la chose. Donc, je ne peux pas me tromper par rapport à... Même si dans l'obscurité, je peux reconnaître ma femme quand même.
Ça, c'est important.
Oui, je n'ai pas besoin de la lumière pour reconnaître ma femme, même dans l'obscurité. Donc, ça, c'est normal.
D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Oui, Gosson?
Oui. À travers le professionnalisme auquel Jacques a fait allusion, je me sens maintenant convaincu que ton passage... devant les membres de la HAC, ça porte des fruits. La preuve en est que tu... c'est pas qui t'ont tiré les oreilles, non. Mais c'est-à-dire les échanges qui en sont sortis, tu te les as appropriés. Et ça transparaît dans la...
Non, mais on faisait tout ceci avant quand même d'aller au niveau de la HAC. Je ne pense pas. Allez-y maintenant.
Mais c'est aussi pour rappeler que le monsieur Pelé qui a fait...
Non, c'est Pelé.
Pelé.
Oui, Pelé.
Je ne sais comment il a
Pelé
fait.
Pelé qui appelle souvent de Doula
Salle. Vous vous rappelez que le 12 mars, le même ministre qui rappelle les maires à l'ordre a rappelé le renouvellement de la CENI. Mais la CENI est demeurée telle à ce jour. Qui a fait quoi à qui? C'est pour dire que si des maires outrepassaient cette note, ils risquent de ne rien se passer, comme rien ne s'est passé avec la CENI. Elle est demeurée à ce jour. Donc c'est pour dire que faisons ce qui est utile. Si c'est du superflu, passons à autre chose. Je veux faire un coucou aussi à M. Nyamavo, qui est allé dans le même sens que nous, et profiter pour attribuer une note. À qui? Je nous attribue à nous qui sommes sur le plateau aujourd'hui.
Oui.
8,50 sur 10.
8,50 sur 10. C'est une note objective.
Très objective.
D'accord. Merci beaucoup, Gosson Ketomania. Vous êtes du journal Liberté. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, Jacques Dzakouti, d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes analyste politique, journaliste, bien sûr. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde de cette émission. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.